parce qu'ils ont compris la vérité. Mais cette règle d'amour est tellement si importante qu'en négligeant cela, on ne se rend pas compte que plus tard, dans ta vie chrétienne, dans ta croissance, tu vas remarquer que pour beaucoup de choses, tu n'arriverais pas à saisir. Il y a des choses à partir de la pensée, il y a des choses à parler, il y a des choses à faire. Mais les tout doivent être accompagnés par l'amour, l'amour de Dieu. Je dis encore, on a tellement entendu parler de ça, mais beaucoup ne se rendent pas compte. Quand plus tard on va se poser des questions, pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que je plante, je cultive, mais je ne récolte pas assez? Pourquoi est-ce que je ne vois pas de telles, telles choses? Parce que nous oublions très souvent la condition. Dieu a donné son tout premier commandement depuis les temps anciens. Il y a une loi qui est véhiculée à partir de l'Ancien Testament. Ça passe dans le Nouveau Testament et ça continue jusqu'à ce jour. Rien n'a changé. Aimer Dieu de tout son cœur. Moi, je pouvais dire aussi, mais je l'aime. Mais pourquoi autant? Mais je l'aime déjà. Et que ça s'arrête là. Non. Il y a quelque chose beaucoup plus tard. Là où Dieu nous veut. Et ce qu'il veut, c'est que nous fassions. Si l'amour n'est pas total, nous n'arriverons jamais à plaire à Dieu. Soit par nos prières, par nos paroles, par nos actes, ça ne plaira pas à Dieu. Tout simplement parce que c'est l'amour qui doit être à la base de tout acte, service, adoration, louange. Tout doit prendre le départ par amour. Le faire parce que tu aimes, parce que j'aime Dieu. Et cela, on ne peut pas dire qu'il y a une injustice là-dessus. Vous voyez ces grands versets qui réunissent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de Jean 3,16. Dieu a tant aimé Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez, ces grands versets, il est écrit aussi dans 1 Corinthiens que soyez imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. Aimez Dieu comme Dieu le veut. Je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, l'amour de Dieu est un don de Dieu. C'est un don. Nul ne peut aimer Dieu comme Dieu le veut par lui-même. Vous n'avez qu'à lire le Romains chapitre 3, verset 10, à partir de 10. Nul ne fait ce que Dieu veut. Nul n'obéit à Dieu. Nul ne sait prier comme il le faut. Nous savons cela. Par plusieurs fois, Dieu nous a mis en garde pour ce qui concerne l'amour. Même Salomon dira quelque part la crainte. Nous confondons souvent la crainte et l'amour. La crainte, c'est les commencements de la sagesse. La crainte, c'est-à-dire, par exemple, ne pas pécher, si nous parlons du péché, ne pas faire du mal, ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Nous pouvons ne pas le faire parce que nous craignons Dieu. Parce qu'en entendant parler de Dieu, Dieu qui est le Dieu de la justice, Dieu qui détient tout, Dieu qui peut te réveiller ou ne pas te réveiller, on nous a tellement parlé du jugement de Dieu que quelque part dans notre cœur, nous avons peur de Dieu. Mais Dieu n'admet pas ça. Dieu, par la bouche du prophète qui était Salomon, il dit la crainte est le commencement de la sagesse, mais n'est pas la sagesse. Fait quelque chose parce qu'on a peur, on ne le fera pas bien. Parce que dans la crainte, il y a l'hypocrisie aussi. Quelqu'un peut faire quelque chose ici parce qu'il a peur, tout simplement parce que les gens le regardent. Et s'il ne le fait pas, ils vont dire, très souvent nous voyons quand on dit, qui peut recevoir Christ? Si tout le monde s'élève, même si celui qui ne devait pas s'élever, Tout simplement parce que les autres se sont levés, il va se lever. Mais Dieu sonde le cœur. Notre Dieu, il sonde le cœur. Il y a un don terrible que Dieu a donné à l'homme, ce qui fait à l'homme toute la différence avec le reste de sa création, c'est la liberté. Écoute, il est Dieu. Il aurait pu nous programmer, naître et l'aîné, et s'attacher à lui comme il le fait, un peu comme un animal. Alors nous l'aimerions sans toutefois avoir un choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu, en quelque sorte, il a pris le risque de nous donner la liberté. La liberté, c'est une bonne chose. Mais la liberté aussi, quand elle ne suit pas la liberté, la vérité, elle devient une arme qui peut tuer. Et Dieu n'a pas voulu nous traiter comme des esclaves. Dieu nous respecte. Il nous a donné non pas seulement la vie, mais la souveraineté pour pouvoir gérer notre vie, jusqu'à la possibilité de lui dire non. Ce n'est pas parce que les gens ont rejeté Jésus-Christ que Jésus-Christ s'est fâché ou il a dit quoi. Il n'a pas fait, il les a laissés faire de la main ce qu'ils voulaient faire par leur propre conscience, même pour aller les crucifier. Ils pouvaient arrêter cela, mais il a laissé faire parce que Dieu veut que celui qui s'approche de lui prenne sa décision par des raisons bien fondées dans lui, l'amour envers Dieu. C'est pourquoi nous prêchons. Comment pourrons-nous plutôt aimer celui qu'on ne connaît pas? Comment aimer celui qu'on ne voit pas? D'où l'importance maintenant de l'évangile et des enseignements. Mais croyez-moi, sans amour de Dieu, tout ce que tu auras à faire ne plaira pas à Dieu. Le livre des 1 Corinthiens 13 et 13, si nous lisons là, il dit, à la fin des comptes, les trois choses vont rester. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et moi, je pense, je vous dis par rapport à moi-même, je ne vais pas avancer là pour dire que je suis parfait. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai accepté le Seigneur depuis mon enfance. Je l'aimais de ma manière et je déclarais, je crois que sur mon témoignage, j'avais même dit, je me battais pour Dieu. Quand on disait du mal à Dieu, ben c'était la bataille. Ça veut dire que je l'aimais. Mais l'aimais à ma manière. Jusqu'à ce que un jour, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit pour qu'il m'ouvre le cœur pour voir si réellement j'aime Dieu comme Dieu l'attend. Excusez-moi, je suis en train de vous parler non pas du 10e commandement, ni non pas du 20e commandement. Je vous dis parce que dans la Bible, au total, il y a 613 lois qui sont réprises à partir de Genèse. Quand on lit tout, on les additionne, nous allons au chiffre de 613. Je ne parle pas de 613, mais je parle de la première loi, les 7 lois et la loi du prochain, l'amour du prochain, de ces deux lois qui sont sorties en décortiquage, toutes les autres lois. Mais le principal, la loi numéro 1, c'est d'aimer Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne trouverai pas le mot pour vous prêcher. Parce que avant que je vous parle, ma parole doit vous consoler. Avant que je vous parle, il faut que je vous aime. Avant que je vous parle, il faut que j'aie compassion. La compassion, c'est-à-dire me mettre à ta place. T'accepter, accepter ta condition. Si tu souffres, que je souffre avec toi. Si tu es dans les douleurs, je suis dans les douleurs avec toi. Si tu te sens angoissé, que je me sente angoissé avec moi. Regarde Jésus. Regarde Jésus quand il nous a approchés. À chaque fois qu'il priait pour quelqu'un, la Bible dit, il a eu compassion. La compassion, c'est partager cette passion dont tu ressens, la négativité, jusqu'à ce que même Jésus, un jour, il a pleuré. Devant la mort de Lazare, il n'a pas pleuré le mort, mais il a pleuré parce que les autres pleuraient, il s'est mis ensemble avec eux. alors qu'il avait tout le pouvoir de ressusciter Lazare. La compassion. Ou bien prier. D'où te viendra le mot? Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas consoler. Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas avoir la parole de douceur. Comment peux-tu gagner une âme? Comment peux-tu faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu si dans ton cœur il y a l'amertume? Ou que tu dis que tu aimes superficiellement sans toutefois entrer en profondeur? Comment suivre Jésus-Christ si on ne l'aime pas vraiment? Si nous regardons ceux qui ont suivi Jésus-Christ, comment c'est possible que quelqu'un qui travaille comme Matthieu qui était là, Luc qui était médecin, il va suivre Jésus-Christ? Est-ce que c'est par crainte? Non, ce n'était pas par crainte. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi parce qu'ils l'ont aimé. Et même cet amour-là n'était pas l'amour que Dieu attendait. Nous savons qu'à un certain moment, Pierre a renié Christ devant la mort. Il a dit, non, je ne connais pas cet homme. Mais c'est différent. Après avoir reçu le don de Dieu, Pierre et tous les autres étaient prêts à la mort.
Amen.
Et ils ont donné vraiment de leur vie. Avant, ils ont fait semblant de donner leur vie. Mais quand l'Esprit est arrivé, cet amour a trouvé place. Peut-être que quelqu'un va me dire, mais comment on fait? Et tu sais, quand on dit don, ce n'est pas un salaire. La différence entre don, c'est le salaire. Le salaire, c'est quoi? Je fais quelque chose et je viens là, je dis, tu dois me donner. Je ne dis pas don, tu dois me donner, c'est un salaire. Vous travaillez, n'est-ce pas? À la fin du mois, si on ne vous paye pas, eh bien, vous pouvez aller à la justice. Parce que c'est un devoir. Ils ont acheté un service. Ils doivent payer maintenant. Mais un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Mais Dieu donne un don à qui il veut. Mais ce que moi je sais, demandez et vous recevrez. Vous savez, le Saint-Esprit vient, il donne la sagesse, c'est vrai. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils peuvent voir tout de suite. Je suis déjà allé deux fois dans le tribunal, je n'ai jamais pris d'avocat. Mais on ne m'a jamais laissé parler plus de 2 minutes que l'affaire était classée. Et comment ça se fait? Oui, nous avons une autre sagesse. Nous avons une autre façon de parler, parce que l'Esprit est avec nous. Mais Salomon, l'homme réputé de la sagesse de Dieu, il a demandé ça à Dieu. C'est que nous oublions souvent, les dons spirituels doivent être sollicités. Je dirais par exemple la repentance, la première règle du chrétien. Répentez-vous. Mais si vous regardez dans la Bible, l'apôtre Pierre va dire, demandez à Dieu qu'il vous fasse le don de la repentance. Ces jours-là, j'ai dit, Jean, je dois me repentir parce que si je me répands, c'est une preuve que j'abandonne les choses mortes et que je viens vers Dieu. Mais c'est Dieu qui accorde la repentance. Il t'accorde la repentance, il t'accorde le pardon. Ensuite, il te fortifie par multiples dons. Même pour les services, même pour ta vie, n'oublions pas que dans le livre d'Ézéchiel, ça dit, et aussi par deux fois, il dit, je ferai en sorte que tu observes, que tu suives et que tu mettes en pratique. Qui a dit que nous devions suivre? C'est Dieu. Mais lui, il sait que nous ne pouvons pas suivre, donc il doit nous aider. Qui a dit que nous devions observer la parole de Dieu? C'est Dieu qui a dit que nous devons observer la parole. Mais il sait en même temps que nous ne sommes pas capables d'observer. Qui a dit que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique? C'est encore Dieu qui a dit, vous mettez ces paroles en pratique. Mais il sait aussi que l'homme par lui-même ne mettra jamais ces choses en pratique. C'est pourquoi il lui faut un don. Et quand ce don arrive, par la repentance. J'ai des défauts que je ne peux pas abandonner. J'ai des liaisons qui m'aident physiquement difficile, voire impossible d'arrêter. Mais comment je peux faire? Je ne peux pas dire je suis en train doucement, doucement. Il n'y a pas de doucement, doucement. Si tu dis que tu vas faire doucement, doucement, crois-moi, l'année prochaine, tu seras encore là. Et 2 ans après, tu seras encore là. Parce que nul ne peut obéir à la parole de Dieu, ni la mettre en pratique si c'est né par la puissance de Dieu.
Amen.
Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez rien par vous-même. Vous ne pouvez pas prier par vous-même, vous ne pouvez pas obéir par vous-même, vous ne pouvez pas aimer par vous-même, vous ne pouvez même pas aimer ton prochain par vous-même, vous ne pouvez pas donner comme Dieu le veut par vous-même. Toute action, tout verbe dont nous sommes sollicités à le faire, personne ne pourra le faire comme Dieu le veut si c'est né par le Saint-Esprit.
Amen.
Et c'est un don sollicitable. C'est-à-dire, moi je sais, je vécu un laps de temps d'où j'étais pratiquement chaque jour à l'église. Je prenais mes communions pratiquement chaque jour. Mais, sincèrement, au fond de moi-même, je me demandais comment on fait. J'étais hypocrite. Justement, ce qu'il fallait faire, que je ne faisais pas, et ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que je faisais. J'étais contraire. Et j'étais conscient. Et je savais qu'il y avait une domination dans moi. Allez savoir quoi? La Bible nous recommande d'aimer le prochain. Comment tu peux aimer le prochain comme Dieu le veut? J'ai partagé un peu avec mes frères cet avant-midi pour donner l'exemple du bon samaritain, quand il a trouvé la personne là couchée, et que le premier, c'est le sacrificateur qui passe, il est passé proche, n'est-ce pas? Très proche, la rue. C'était là, il est passé. Et après, un étiquet, il est passé là, tout près, aussi. Mais un étranger est venu, il est passé là aussi. Je crois que tous les trois sont passés à la même distance. Donc, proche ne veut pas dire c'est lui qui est proche de toi. Mais parmi les trois, il y en avait un qui était le prochain de l'autre, parce qu'ils sont tous passés à côté du blessé, couché par terre, mais personne n'a communié à sa souffrance pour être son prochain dans la souffrance, dans le bénéfice tel qu'il était. Et Jésus a dit, parmi les trois, qui était le prochain? Proche. Quand on regarde, qu'on se dit, non, je ne peux pas le laisser. Et tu dis, à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que la deuxième loi ou le deuxième commandement ne peut être accompli que si vous avez la puissance du premier commandement. C'est pourquoi le premier est le premier et l'autre est le deuxième. Je vais dire ceci. Je peux aimer mon prochain. Admettons que je dis, j'aime mon frère. Je n'ai pas besoin de demander son nom. Si je demande son nom, je cherche d'autres raisons que celui de Christ. Admettons que je vois quelque part, je dis je dois m'arrêter parce qu'il est de l'église de Sarcelles. Est-ce que c'est une mauvaise action? Non, c'est une bonne action. Est-ce que je le fais pour Dieu? Allez savoir. Jésus a dit, si tu donnes un verre d'eau à mon serviteur parce qu'il est mon serviteur, moi je te dis, moi je suis ton père, tu me donnes un verre d'eau. Est-ce que tu me donnes parce que je suis ton père? Tu peux le faire, et c'est une bonne chose. Alors tu auras la bénédiction de ton père. Mais si tu le fais, non pas parce que je suis ton père, mais parce que je suis serviteur de Dieu, tu ne le fais plus à cause de moi, tu le fais à cause de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui va te le rendre.
Amen.
L'amour du prochain n'est possible que s'il prend la pluie à l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu est là, nous sommes devenus aveugles en quelque sorte pour ne plus demander qui est derrière là. Est-ce que c'est ton ennemi? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de Chine? Ça ne fait rien. Mais à cause de Jésus-Christ. Là, je dis seulement pour cette action. Mais ce que nous oublions, tout service doit avoir comme motif d'action l'amour de Dieu. Si on fait quelque chose sans l'amour de Dieu, tu le fais pourquoi? Aux yeux des hommes, on va dire qu'il a bien fait. Oui, mais Dieu sonde le cœur. C'est ça le problème. Si je me mets ici et que dans moi, il n'y a ni amour de Dieu, ni en quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux vous transmettre? Je n'ai pas envie de parler pour parler, mais je veux vous transmettre la vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Je veux qu'au moment où je parle, que tu entres dans toi-même et que cette parole te révolutionne en sortant d'ici, que tu prennes une décision. Parce que la décision que tu vas prendre ici, Dieu va la créer. Dieu aime ceux qui l'aiment. C'est écrit encore dans la Bible. Regarde, le fait que Dieu nous ait envoyé Jésus-Christ, ce n'est pas un fait d'hasard. Parce qu'avant qu'il envoie son fils, il a testé Abraham. Aujourd'hui, c'est notre père, par la foi. Il a dit d'abord à Abraham, donne-moi ton fils, comme pour voir si vraiment Abraham mérite Jésus-Christ. Donne-moi ton fils. Et Abraham n'a pas hésité. Quand il a pris son fils pour le tuer, c'est juste à ce moment-là que Dieu dit, Abraham, arrête. Maintenant, je sais. Je sais quoi? Je sais que tu m'aimes au point de me donner ton fils. Et alors, moi aussi, je vais donner mon fils à cause de toi. Et quand il se retourne, il voit le bélier. Ce bélier était symbole de Christ.
Amen.
Qui devait venir plus tard. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fera avec chacun de nous. L'amour de Dieu n'est pas un amour collectif. Je ne peux pas dire nous aimons Dieu. C'est une erreur. Dieu cherche une liaison particulière.
Amen.
Avec chaque enfant. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un cas particulier.
Amen.
Tu es un nom que Dieu t'a donné. Dieu dit une situation tout à fait autre. Dieu, quand il te visite, il sait comment il te visite.
Amen.
Il ne te visite pas comme il me visite. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta force. Il sait comment te parler. Il sait comment t'aborder. Il sait quelle phrase utiliser pour toi. Donc, ce que Dieu veut, c'est que toi, tu comprennes aussi que tu l'appelles Père en secret.
Amen.
Il doit y avoir un secret entre toi et ton Père.
Amen.
Tu sais, l'exemple qu'on a donné dans la Bible, par exemple, l'homme, il donne sa vie aussi, il doit aimer sa femme comme lui-même. Mais dans le livre d'Éphésiens, mais la Bible dit, cette parole-là est un mystère. Mais on ne dit pas entre l'homme et la femme, mais par rapport à Christ et son Église. Un mystère. Tu peux avoir un mari et une femme, mais votre contact avec Dieu ne sera jamais le même. L'homme sera une façon et la femme une façon. Et seul Dieu connaît. Et toi-même, regarde ce qu'on dit à l'Apocalypse. Il va nous donner une pierre dont personne ne connaît le nom, sauf celui qui la reçoit. N'est-ce pas là la preuve qu'entre toi et Dieu, il y a un secret?
Amen.
Est-ce que si moi, je vais te donner quelque chose ici, je vais te donner quelque chose et je sors ça d'abord, mon frère, viens prendre 100 euros ici. Est-ce que... Vous comprenez un peu ce que ça fait? Si vraiment je l'aime, et si vraiment je veux l'aider, je vais l'appeler dans le coin. La Bible dit, c'est que donne la main droite, que la main de gauche ne savent, ne connaissent pas. Entre toi et Dieu, ce n'est pas un cas de généralité. Si tu es là, tu es à côté. Nous prions en public. Nous prions aussi dans l'assemblée. Mais Dieu a besoin de plus que ça. C'est quand tu es chez toi. quand tu es seul, quand l'église n'est pas là, quand le pasteur n'est pas là, qu'est-ce que tu trouves à dire à ton Dieu à ce moment-là? C'est ça qui est beaucoup plus cher. Parce que ici, si je dis, on va prier pour la foi, tous vont prier pour la foi. On va prier pour l'église, tous prient pour l'église. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu as dans le cœur que tu as à dire à ton Dieu? Si il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas de particularité entre nous et avec Dieu, je vais dire seulement, tu dis que Dieu est ton père, mais moi je te dis, tu te comportes comme un étranger à la vie de ton père. Dieu cherche une relation intime. Si nous regardons dans la Bible de Christ, il dit, si tu veux, si tu confesses, si tu viens à moi, si tu viens, c'est là la partie. J'ai envie de servir le Seigneur, mais je suis coincé parce que je n'ai pas l'amour de Dieu. Si j'aime Dieu, il m'est impossible de sortir, par exemple, dans un hôtel et venir ici, je dis, je vais prêcher. Impossible! Même si on m'appelle, je vais dire, pasteur, excuse-moi, je ne suis pas digne. Pourquoi? Dieu est saint.
Amen.
Personne ne m'a vu, mais dans ma conscience, je ne ferai jamais une chose comme ça. Jamais! J'ai dit un jour, il est écrit aussi dans la Bible, un chrétien ne pêche pas. Quelqu'un m'a dit que c'était impossible. Vous savez ma réponse? Nous, les chrétiens, nous pêchons par la pensée. Et tout s'arrête là. Parce que c'est lui qui ne veut pas faire mal à Dieu. Parce que chaque fois que nous pêchons, c'est une gifle à la figure de Jésus-Christ. Chaque fois que nous faisons le mal, c'est une gifle à la figure de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort à cause de ça. Si nous rajoutons cela. Mais un chrétien, qu'est-ce qu'il fait quoi? À partir de la pensée. Parce qu'aucun acte ne peut être fait s'il n'y a pas méditation dans le cœur. Mais pendant que tu penses, oh j'ai vu, au moment où je vois ça et que ça se passe dans ma tête, au nom de Jésus, j'écrase et je détruis cette pensée. Et crois-moi, elle va disparaître en quelques secondes. Vous n'avez qu'à essayer. C'est pourquoi les chrétiens pêchent volontairement. Pourquoi je dis ça? Parce que le nom de Jésus nous a été donné pour notre défense. Et si tu vois les péchés venir, si tu n'appelles pas Jésus, ces péchés auront le dessus sur toi. Si quelqu'un te visite, même à la maison, même si tu ne fais pas visite, mais si tu dis déjà au nom de Jésus, que toutes ces pensées, les paroles négatives qui n'honorent pas Jésus ne sortent pas, ça s'arrête. Mais si tu dis je ne dirai pas ça, tu es complice à ta propre destruction. Car l'âme, nous l'avons là. On ne peut pas dire à Dieu, Dieu fait, il va faire quoi? Tu veux qu'il t'enlève la liberté? Non. Tu es libre. Libre de parler. Même si tu es enchaîné physiquement, ton âme est libre. L'amour. Il y a des commandements qui se suivent. Donc, je ne peux même pas parler du deuxième commandement si le premier n'est pas fait. Parce que le premier commandement, son application ouvre la porte au deuxième commandement qui fait que je peux aimer même mon ennemi parce que je ne connais plus son nom. Mais je l'aime au nom de Jésus.
Amen.
Et n'est-il que tu me dises comment il s'appelle? Il dit que tu me rappelles celui qui t'avait... Oui, s'il m'avait fait ça, c'est bon, mais aujourd'hui, c'est pas à cause de lui, au nom de Jésus, je le fais. Et alors, le premier commandement entraîne le deuxième commandement. Maintenant, comprenez maintenant, je vais vous dire le secret de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Si notre obéissance est parfaite, nous sommes aussi capables de bénir toute désobéissance. Là où il y a une obéissance parfaite, celui qui obéit à la loi de l'amour, il a obéi à toutes les lois parce qu'il y a la loi du prophète qui dit « Ne fais à personne ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Mais si tu as maîtrisé ça, tu as les atouts contre le diable. Parce que ta foi n'est pas une foi vaine. Tu es réellement dirigé par le Saint-Esprit. Mais si mon obéissance n'est pas parfaite, si je suis impudique, si je suis menteur, mais comment voulez-vous que le mensonge punisse le mensonge? Comment veux-tu que les ténèbres chassent les ténèbres? L'opposition de la ténèbre, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la transparence, c'est la vérité, et c'est la parole de Christ. Ce n'est que quand on a ça, que les ténèbres fuient devant toi. Oui, il y a un prix à payer. C'est un chemin. C'est là où vient la différence. Nous pouvons obtenir tous le baptême au même endroit, au même jour. Mais l'application va faire très vite notre différence. Parce que celui qui ne met pas ça en pratique, ce n'est pas que Dieu s'éloigne de toi. Toi, tu t'éloignes de Dieu. Et tu vas arriver à un endroit où la main de Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu est un Dieu de rendez-vous. Notre Dieu n'agit pas partout. Il y a un endroit où il dit, mets-toi ici et je ferai. Avec Abraham, c'était un lieu, va là-bas. Avec Moïse, va là-bas. Avec nous, il dit la même chose, allez en Christ. Si Christ est en vous, l'espérance de la gloire.
Amen.
Et alors, si je dis, j'ai envie d'obéir, quelqu'un me dit, mais comment on fait? C'est l'amour qui triomphe sur le péché. Pas la crainte. Tu as peur, je ne peux pas parce que les frères, nous sommes à Sarcelles, l'église de Sarcelles, moi je ne peux plus sortir ici, je vais aller dans une autre ville, là-bas je n'ai pas le risque de voir les frères de l'église. Ça c'est la crainte. Mais l'amour, l'amour, que ce soit ici, que ce soit hier, même que ce soit en vacances, tu dis non, Christ est là, je l'aime. C'est par amour qu'on obéit. Je l'aime. Je l'aime tellement que je ne paie pas. Je ne paie pas. J'ai honte. Je n'oserai pas. Et il me fortifie. Si l'amour est en toi, tout ce que tu entreprendras réussira. Tu ne seras jamais confondu. Parce que Dieu est amour. En ayant l'amour de Dieu, Dieu est vraiment dans toi. Il n'y a pas meilleure preuve que l'amour de Dieu dans quelqu'un. Ça sauve. Ça sauve définitivement. Et quand on n'a pas ça, on peut solliciter. Voilà des raisons de gêner. Je t'ai dit, tu es dans le problème, ou obéis, pardon, me mettre des problèmes. J'ai une telle situation, abandonne ça, laisse ça. Toutes ces choses vont vous seront données par la suite. Mais cherche d'abord l'amour de Dieu. Que le Seigneur t'accorde cette repentance et que tu te connectes avec Dieu. Si tu te mets avec Dieu, le reste c'est facile. Parce que si nous marchons, si nous sommes sanctifiés, si nous obéissons, si nous suivons, si nous observons la voix de Dieu, si nous servons Dieu, si nous chantons, si nous intercédons, nous ne le faisons que à l'aide de la présence de Dieu. Or, Dieu est amour. C'est le prix à payer. Chacun de nous doit passer par là. Jésus a donné sa preuve. Il a donné sa vie et il a été la croix. Il a donné aussi son père qui le ressuscitait, il est Dieu. maintenant, quitte à nous maintenant. Nous connaissons très bien ce verset que je lis souvent dans Corinthiens, chapitre 5, 14. Nous avons compris. Puisqu'il a donné de sa vie à cause de nous, nous aussi, nous donnons de notre vie à cause de lui. À partir de maintenant, tu vas m'étonner. Je t'ai dit, si maintenant tu t'es dit, je vais aller intercéder pour ça, et que tu prends la résolution maintenant que tu vas le faire, eh bien le Seigneur le fera. Il le fera plus vite que tu le crois. Mais seulement il faut être sincère, comme il a dit, cherche-moi de tout cœur. La Bible a dit même, cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Pour l'argent, on est bien à se réveiller, hiver ou pas, travailler la nuit ou pas. L'argent. L'argent est un mauvais maître. L'argent ne nous conduit nulle part. L'argent ne donne pas la solution à certains, beaucoup de choses. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Ce n'est pas l'argent qui te réveille.